Bonjour et bienvenue à vous, cher ami passionné d'intelligence artificielle. Jean-François Sénéchal, passionné lui aussi d'éthique d'intelligence artificielle et mon co-animateur cette semaine sera Frédéric Plamondon. Salut Fred.
Salut, ça va?
Oui, et notre invité cette semaine, aujourd'hui à IA Café, on commence avec notre un ancien chercheur, maintenant un artisan, un travailleur acharné, expert, conseiller, Darwin Brochero. Je vais rouler mon R en plus.
Oui,
salut.
Ça.
Ça va bien, Darwin?
Ça va très bien, toi?
Oui, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Darwin, ben, un parcours était là avant tout le monde, je dirais, avant plusieurs, en intelligence artificielle. Fait un bac d'abord en génie civil à l'Université nationale de Colombie. Maîtrise en ressources hydrauliques à l'Université nationale de Colombie toujours. Donc, ressources hydrauliques, là, ça reviendra dans notre discussion. Donc, passage génie civil et ressources hydriques et hydrauliques.
Oui.
Doctorat ici même à l'Université Laval en génie civil, doctorat. Et depuis, il s'est transformé en, il aime bien se décrire comme un data scientist, donc un expert et spécialiste des données, hein, quelqu'un qui est capable de voir le plein potentiel des données. Entrepreneur, hydro-informatique, c'est des mots que j'ai vus, là, il va falloir les définir, mais sont associés à toi. Consultant, spécialiste, machine learning, donc apprentissage machine, ça reviendra au cours de l'entrevue également. Occupé, Darwin, en ce moment?
Oui, pas mal.
Travaille fort?
Heureusement, oui.
Tu travailles toujours en intelligence artificielle?
Toujours en intelligence artificielle. Bon, d'abord, salut Fred.
Salut, ça va Darwin?
J'étais gêné parce que je n'étais pas salué tantôt. Donc, mais je suis un peu gêné de ta présentation, en fait. Moi, quand tu dis que tu es l'expert en tel domaine, je me sens gêné. Là. Parce qu'en fait, le domaine est très vaste. Puis quand on parle d'un expert, je me sens comme un peu un David avec un Goliath.
Est-ce que tu te décris comme travaillant en intelligence artificielle ou tu aimes être plus précis ou comment ça fonctionne? Cette expression-là, est-ce que tu l'aimes, intelligence artificielle?
Non. Moi, je ne l'aime pas. J'aime beaucoup plus machine learning. Mais disons que je dois quand même profiter de la vague qu'il y a de l'association.
Ah, il y a une vague.
Oui. de l'association de mon travail avec l'intelligence artificielle. Mais une fois, je suis en confiance avec les clients. Une des premières choses que j'ai dit, c'est « Écoute, on va faire le machine learning. »
Puis comment tu distingues les deux avec ton client? Comment tu lui expliques ça, la distinction entre intelligence artificielle, machine learning? Tu décris ça en quelques phrases, j'imagine, maintenant, le cas de tes clients.
Oui, c'est ça. Puis même, il faut la décortiquer, machine learning, deep learning, intelligence artificielle, data mining. Il commence à venir à exploser les termes.
Oui, c'est ça.
Donc, mais en fait, moi, l'intelligence artificielle à temps tel, c'est quelque chose qu'on sait par l'histoire, ça devient des années 50 avec Turing, puis avec toutes ces gangs-là qui essayaient déjà d'automatiser des processus cognitifs. Là.
Oui.
Donc, moi, quand je suis avec un client que facilement, je vois que c'est pas un processus cognitif que je vais essayer de déployer avec une machine.
OK.
Là, je brise tout de suite les mots intelligence artificielle, je lui dis, écoute, on va faire du machine learning, on va prendre tes données, on va essayer de tirer des associations de tes données. Donc ça, c'est pas l'intelligence, c'est juste tes données, on va les faire parler.
Prendre tes données puis mettre en place des processus pour faire parler des données. Là.
Oui.
Et faire comprendre aux clients des choses qu'ils n'auraient pas compris tout seul en observant ces données.
C'est avec les projets que j'ai eu, en fait, une des phases la plus jolie que je vois, c'est la phase de découverte des connaissances. Une fois on met en place des outils, parfois les clients disent « Mais je n'avais jamais pensé que ces variables-là auraient une influence sur tel processus. » Donc là, c'est la découverte des connaissances. Puis moi, c'est un des moments que j'adore le plus de tous les processus.
Le moment où tu as réussi à faire parler des données qui autrement n'auraient jamais parlé.
Et à faire la découverte, disons, la découverte. C'est là où je me place comme un scientifique, en fait.
Puis tu as commencé quand, comment, dans quel contexte ta carrière de chercheur dans ce domaine-là de machine learning?
C'est assez spécial, mais en fait, je dois avouer que de plus en plus, je vois les profils des chercheurs en intelligence artificielle, puis sont pas mal de profils qui ont presque rien en commun.
C'est vrai.
Donc, moi, de ma part, j'étais en génie civil. Puis, à cette époque-là, j'ai travaillé surtout à la conception de ces structures.
OK.
Puis, j'étais toujours comme un gars de défi. Donc, moi...
Des structures qu'on connaît, là, des structures de béton
structures de
et
métal,
d'acier.
Des béton, d'acier, okay, ouais, c'est ça, des bois. Puis, je dirais que quand moi, j'ai choisi ces domaines-là, ça a été parce que l'université, c'était comme le domaine le plus difficile. Donc, je me cherchais toujours des défis.
OK, toi, tu as choisi, tu es allé dans cette branche-là parce que tu t'es dit, ça va être vraiment difficile, je vais être heureux.
Ouais,
c'est un drôle, bizarre.
Ça a été un peu comme... oui, c'était une drôle de façon d'aborder les choses.
C'est pas la façon toujours de mes enfants d'aborder
moi,
la vie.
Moi, j'aborde les sujets que je considère comme des défis. Donc, oui, c'est un peu spécial, je dois l'avouer. En finissant mon bac, en fait, à la dernière étape, je suis allé à une conférence de génie.
Okay.
Puis un des domaines, en fait, génie, on peut penser génie à plusieurs branches, génie civil,
oui.
Plusieurs branches. Puis une de ces branches-là, c'est l'environnemental.
Okay.
Puis l'environnemental, quand on parle des séries environnementales, c'est une des choses les plus complexes à modéliser.
C'est vrai.
Donc, quand
plusieurs données, tu as plusieurs impondérables, difficiles à mesurer.
Plusieurs processus
complexes.
Définis aléatoires,
c'est vrai.
Complexes. La physique en arrière, c'est très complexe.
C'est vrai.
Donc, mais moi, à l'université, j'avais pas ce feeling au bac, parce qu'en fait, à mon université, l'environnemental, c'était plus léger, plus de conception de structures hydrauliques faciles. Puis,
okay.
Donc, j'avais pas ce feeling, disons, modélisation série environnementale.
Puis, quand tu es arrivé à cette conférence-là...
il y avait un gars qui présentait, okay. C'était en 2003. Un gars présenté, lui, il avait fait son doctorat à Berkeley, puis lui présentait en conférence la prévision des débits avec des réseaux neurones. C'était en 2003, puis je trouvais le sujet fascinant. Je trouvais comme « wow ».
Toi, on te parle de réseaux de neurones, puis tu trouves ça fascinant. Qu'est-ce que tu trouvais fascinant?
J'ai trouvé fascinant l'association, puis les gars, comme lui, il présentait sa conférence, puis en montrant que c'est un peu une analogie au cerveau, mais même que maintenant, je vois que c'est vraiment loin d'être une vraie analogie, là. Mais l'idée, en fait, je trouve que c'est un bon pitch de vente, là. Mais...
C'est vrai que c'est un bon pitch de vente.
Ouais. Ça tient plus de la métaphore,
plus qu'une analogie, c'est une métaphore. Ça.
Mais je me permets de faire une parenthèse, on reviendra à la conférence, mais cette métaphore-là du neurone, je veux dire, s'il y a bien quelque chose de difficile à comprendre d'un point de vue biologique, c'est bien un neurone. Là.
Mais oui.
Donc là, on prend quelque chose de très complexe, de difficile à saisir biologiquement, puis on dit, on va faire l'analogie avec l'informatique. Je vois pas comment c'est très aidant de faire le lien. Mais le lien qu'on voit clairement, c'est on présuppose qu'on fait passer le cerveau, la neurone.
Ouais.
Puis là, tout à coup, on aurait un ordinateur et les réseaux de neurones. Puis ce qu'on aimerait faire, là, c'est le parallèle entre les deux. Mais le neurone en tant que tel, je ne sais pas si c'est vraiment aidant pour comprendre la finesse de tout ça. Là. Qu'est-ce qui se passe dans le neurone, d'une part, puis qu'est-ce qui se passe dans un réseau de neurones informatiques?
Certain, en fait, qu'on peut utiliser l'analogie ou qu'elle a été utilisée comme ça au départ.
Non.
Si je comprends bien, si ma mémoire est bonne, si je ne commets pas d'erreur, en fait, c'est plus de dire comment est-ce qu'on peut amener une machine à apprendre quelque chose, à généraliser des concepts, à partir non pas d'une approche qui est déterministe en programmant quelque chose, mais plutôt à partir d'une approche qui s'inspire de la nature. Et comment le cerveau fait pour décoder des images puis les généraliser, par exemple. Je pense que c'est à partir de là qu'ils ont imaginé le réseau de neurones.
Oui, ça, je le comprends. C'est peut-être l'image de la neurone là, que pour l'avoir étudiée en biologie, tu sais, ça reste quand même un modèle abstrait pour décrire quelque chose qu'on voit à peine, là, un neurone.
Neurone ou un neurone?
Je ne sais pas.
On sait pas.
Okay, c'est pas juste moi qui a des problèmes.
Deux neurones, on va dire ça pour l'instant. OK, bon. Tu es à cette conférence-là, tu vois ce jeune chercheur-là de Berkeley qui parle d'environnement, qui parle de recherche en génie environnemental, mais qui tout à coup, là, il se met à modéliser avec des gros modèles mathématiques. Puis toi, tu te dis,
ouais.
C'est intéressant.
Oui, c'est ça. Puis moi, à ces conférences-là, j'étais présentateur aussi d'un travail en conception de structure en bois. Donc, comme je l'ai eu à côté à mon panel, j'ai commencé à jaser avec lui. Puis je dis, écoute, ton sujet est tellement intéressant. Il y a longtemps que je n'avais pas comme ces feelings avec un sujet. Puis lui, il m'a dit, écoute, je suis à telle université, je suis à l'Université nationale à Bogota. Si tu veux faire une maîtrise, je peux t'aider là-dessus. Si tu veux travailler avec moi dans ces domaines, tu as les portes ouvertes pour le faire. Je dis, écoute, ça a été une décision que j'ai prise la minute.
Tout de suite. Hein.
Tout de suite, là. Puis 2 mois après, j'étais déjà avec lui dans son laboratoire de modélisation de systèmes numériques, ça s'appelait comme ça.
Modélisation de systèmes numériques. Donc, tu pars du béton, d'acier, du bois, de quelque chose d'assez concret à, là, tout à coup, faire des modèles mathématiques sophistiqués, complexes, pour essayer d'expliquer des phénomènes environnementaux. Là.
Je pense que c'était un défi aussi que je voulais surmonter parce que à mon bac, disons, les cours les plus compliqués pour moi, c'était la programmation. Je me souviens de toute l'histoire de bac. La note la plus basse, ça a été les cours de programmation.
Bon, ça, c'est de l'espoir. Ça veut dire que même si on est poche en informatique, en programmation, on peut finalement réussir à se donner des défis, travailler fort, puis devenir un expert comme toi dans ce domaine.
Donc, c'était drôle parce que je l'avais comme un défi. Je me suis dit, en finissant mon bac, il faut que je fasse quelque chose en programmation aussi parce que je le vois, c'est l'avenir. Je le voyais déjà. Puis c'est ça. Mais je dois avouer aussi que les cours de programmation à l'époque, c'était vraiment, vraiment compliqué. C'était des langages pas structurés. Je me souviens, j'ai appris COBOL, Pascal, puis c'était des langages compliqués, complexes. Puis ça parlait pas.
Ça semble encore compliqué. Écoutez, les étudiants, leurs cours de programmation, tout ça, ça a évolué, mais...
Aujourd'hui, avec Python, disons, que c'est comme le langage... les plus, je dirais que c'est un des plus faciles, disons, abordés. C'est des langages déjà structurés beaucoup plus au niveau sémantique de l'humain, là. En faisant encore l'abstraction, que c'est pas vraiment au niveau sémantique, mais ça s'approche.
Ça s'apprend plus aisément.
Donc, c'est plus facile à saisir. Donc, oui, c'est ça, ce niveau-là. Puis quand j'ai commencé ma maîtrise, j'avais fait déjà quelques lignes de code en MATLAB, que c'est facile aussi à programmer. Une fois à la maîtrise, le chercheur me dit, écoute, moi, j'utilise Fortran. Fortran, c'est de béton aussi. C'est un langage qui s'approche au langage machine. Je dis, bon, il faudra commencer avec un langage pas structuré. Là. Mais
t'aimes les défis. Fait que tu t'es dit, je vais apprendre Fortran.
Fortran, oui. Oui, mais à force de... Bon, en fait, c'est des langages qui sont difficiles à embarquer là-dedans, mais qu'une fois on embarque puis on a la logique, c'est difficile de s'en aller vers des autres langages. En fait, on les trouve beaucoup plus faciles après. Là.
Si je comprends bien, j'ai une question. En fait, ce que tu fais, ou ce que tu faisais à ce moment-là, c'était comme de la modélisation pour faire des doubles numériques que tu soumets à des pressions environnementales, ce genre de choses-là, ou...
En environnemental, il y a plusieurs types de problèmes. Puis pour moi, à cette époque-là, c'était la prévision des précipitations.
Bon, on y arrive. Là. Je pense que ça va être plus concret. Là, c'est-à-dire que... C'est intéressant aussi ce que tu vas nous expliquer. C'est un vrai modèle concret là, des fonctionnements, d'à quoi ça peut servir. Je pense que là, on en a un modèle. C'est pas le modèle classique qu'on nous explique toujours, là, mais là, ici, c'est une application. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, donc avec la programmation, tous les termes que tu nous as mentionnés, mais là, ici, dans un domaine assez concret, c'est les prévisions météorologiques. Oui. C'est dur à prononcer à cette heure-là. hydrique, donc transformer les précipitations en débit, j'imagine, puis après ça, essayer d'anticiper comment tout ça va influencer l'accumulation d'eau, l'hydroélectricité, j'imagine, qu'on va servir de modèle comme ça pour essayer de calculer les... Donc toi, explique-nous à quoi ça ressemble, comment on peut servir de l'intelligence artificielle pour modéliser tout ça.
Ouais.
On commence par où, là?
On commence un peu pour comprendre le processus. Bon, on connaît tous le cycle de l'eau, là.
Oui,
le cycle hydrologique de l'eau, mais donc on s'en va vers l'atmosphère. Donc, la précipitation, c'est au niveau atmosphérique. les débits, c'est au niveau déjà la surface du sol. Là, du sol. Donc, mais en commençant par les processus précipitation, il y a vraiment un panoplie de variables associées à l'humidité relative dans tous les sens. Il y a l'albédo. Bon, en fait, j'ai pu décrire 12-20 variables différentes associées, qui sont les plus importantes, la température, l'humidité relative. Puis même les prévisions des jours précédents, si on parle de la prévision journalière. Donc, il y a toujours ces séries qu'en statistique, on parle des séries persistantes, c'est-à-dire que quand les journées sont pluvieuses, il y a la tendance que la journée d'après va être aussi pluvieuse.
J'imagine que c'est toutes des données là, qu'on accumule, puis c'est ce genre de données-là dont on sert pour nous prédire s'il va faire beau en fin de semaine ou pas. Là.
Donc, les modèles à la base, parce qu'une question qu'on se pose souvent, c'est mais comment on fait maintenant? Donc, pourquoi utiliser l'intelligence artificielle s'il y a déjà des modèles en place? Donc, c'est une bonne question, puis c'est la première question que je pose dans tous mes projets. C'est, est-ce qu'il y a un modèle de base déjà implanté? Oui. Est-ce que ce modèle a du succès? Oui. Donc, pourquoi faire le machine learning là-dessus? Je vois pas pourquoi le faire quand c'est un problème résolu. Parce qu'en fait, une des choses abordées toujours, c'est le machine learning, lui, la technique va être appréciée tant qu'on démontre la valeur. Mais si c'est pour les fun, je le fais pas.
Donc, ça prend un problème, là, quelque part.
Ça prend un problème, là. Ça prend un problème. Donc,
ça prend un problème, ça prend l'idée qu'on a un problème. Notre modèle en ce moment n'est pas satisfaisant, puis peut-être que si on implante du machine learning, on va améliorer notre système.
Tout à fait. Donc, dans les contextes de la prévision précipitation, c'est un problème difficile. Puis les modèles IC, il y avait, oui, c'est ça, il y avait les équations physiques, des navires stock, puis tout ça, mais c'est complexe à modéliser, ça prend du temps de calcul.
OK.
Puis, il y a beaucoup de variables, donc ça veut dire que l'espace paramétrique pour chercher les bonnes setups est complexe.
Okay.
Puis à la fin, on arrive à des modèles prévisionnels qui ne sont pas si bons. Donc, les problèmes étaient là.
Donc, on est capable de faire des prévisions, mais des prévisions hydriques, hydrologiques, mais nos prévisions n'étaient pas satisfaisantes.
Il y a des contextes où sont moins satisfaisants que des autres. Disons, à Québec, j'ai trouvé que les prévisions sont tellement bonnes, en fait. Bon, ça dépend. Mais environnement Canada, je considère que ces prévisions sont bonnes. Mais c'est parce que le contexte géographique, c'est facile. On voit avec les radars comme la précipitation s'en vient. Mais dans les contextes de pays montagneux, c'est pas si facile. Où les conditions climatiques changent d'un moment à l'autre. Ces projets-là, c'était dans ces contextes montagneux où les conditions changent facilement. Donc, là,
le projet sur lequel tu as travaillé, c'est un modèle comme ça, là. C'était pas ici d'abord?
Non. Pour le projet à la maîtrise, j'étais en Colombie.
Ah, c'était en Colombie. Donc, j'étais dans un milieu où là, le modèle n'est pas très efficace pour faire des prédictions.
Pas très efficace, mais en plus, l'implication sociale de ne pas avoir de bonnes prévisions, c'est mesurer en quantité de morts. C'est un contexte différent. C'est pas les sous-sols inondés. C'est pas les saturances.
C'est pas juste tes fins de semaine, ton beau fin de semaine prévu qui est gâché. Là, c'est des,
donc,
des morts. Là.
Parce qu'en fait, la prévision, c'est le déclencheur des glissements de terrain. Puis quand on parle de territoire montagneux, c'est le glissement de terrain plus l'eau, donc ça fait des barrages, disons, artificiels. Puis qu'à un moment donné, ça lâche, puis c'est fini.
OK, donc les modèles, tu travaillais sur un modèle de prévision, améliorer les prévisions hydriques pour éventuellement éviter ce genre de catastrophe-là.
Oui,
puis d'implémenter du machine learning, ça a permis effectivement d'améliorer la situation?
En fait, c'était un défi à plusieurs... on peut aborder ce défi de plusieurs angles. Puis les premières, ça a été comme de l'aborder avec les machine learning. Ça a été assez nouveau aux années 2000. J'ai commencé en 2004 ces projets-là.
OK.
Donc, même j'utilisais le réseau neuron, mais surtout des autres modèles, des arbres de décision, des logic flux, des colonies de fourmis. Donc.
Des colonies de fourmis, qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais, ça. Bon, en fait, il y a des modèles inspirés pour des autres processus naturels.
OK.
Donc, les colonies de fourmis, c'est un de ces modèles qu'on parle évolutionnaire. Donc, ils vont essayer à faire l'analogie de comment une fourmi va trouver le schéma optimal pour trouver la nourriture.
OK.
Tu vois, au départ, ils sont tous random.
Oui.
À un moment donné, tu vois que toute la colonie fourmi, c'est une ligne presque droite. Là.
Oui.
Mais ça, il y a un processus naturel dirigé vers Il est orienté avec la... Je ne me souviens pas les noms en français. Phéromone, peut-être. Là.
Phéromone, en français, oui. Ouais.
Donc, puis cette tracée de phéromones, c'est un processus intelligent que toutes les fourmis vont faire en même temps. Donc, il y a des algorithmes qui s'inspirent de ce processus-là pour partager l'information entre les, disons, les agents qui cherchent l'information pour optimiser un processus.
C'est intéressant, ce processus-là.
Oui, c'est très intéressant. Puis comme ça, il y a les algorithmes de colonies d'abeilles, il y a, bon... En fait, les algorithmes évolutionnaires à temps tel, c'est un autre domaine très large en intelligence artificielle, qu'à date, je trouve un peu isolé, puis que c'est devenu très à la mode le deep learning, puis ça prend toute la place. Là.
C'est vrai que c'est ça qui est tendance en ce moment.
Oui.
Mais c'est intéressant aussi ce que tu décris. Donc, on utiliserait des modèles pour apprendre un regard externe pourrait comprendre comme étant un peu du chaos. Il n'y a pas vraiment de sens dans tout ça. Mais avec l'intelligence artificielle, du machine learning, on pourrait faire du sens de ces, trouver des patterns qu'un œil humain pourrait pas nécessairement avoir. Ça,
oui,
se peut-tu?
Tout à fait. C'est ça. C'est... Nous, comme humains, on est quand même limité quand on manipule plusieurs variables en même temps. Donc, c'est là où le machine learning va faire parler les données pour nous montrer que de tout cet espace de plusieurs variables, plusieurs phénomènes en même temps, on va choisir quels sont les plus importants et comment ils sont associés, où sont les patterns.
Donc, c'est ça. De notre point de vue, ça semble carrément aléatoire ce qui se passe. C'est le fruit du hasard. Mais dès qu'on se met à analyser les données, les différentes variables... un regard plus aiguisé ou une intelligence plus... avec une puissance de calcul qui n'est pas la nôtre, est capable de voir des patterns dans ce que nous, on considère plus comme étant du hasard. C'est ce que je comprends.
Peut-être pas du hasard, mais complexe à modéliser. Je dirais que c'est plus... on est quand même limité. Puis même dire on travaille deux variables, c'est un bidimensionnel, on peut le piloter facilement. Trois variables, on va avec une cube, là. Mais 4, 5, ça commence à devenir complexe, mais quand tu as 100, 200 variables, c'est comme intraitable.
Hein. Intraitable.
Trop complexe, ouais, c'est ça. Puis typiquement, un projet d'intelligence de machine learning ou d'apprentissage automatique comme ça, c'est combien de variables?
C'est une bonne question. Ça dépend de chaque projet, mais... Au départ, en fait, une des premières phases exploratoires, un projet en apprentissage automatique, je veux commencer à parler d'apprentissage automatique, on est en français. Hein. Donc, la première phase, quand je parle avec les clients, c'est je vais prendre ton expertise, je vais te faire parler, puis je vais prendre en note toutes les variables que je vois de ton discours. Puis teste toutes ces variables-là, c'est les bassins de variables pour mon projet.
Okay.
Donc, on va explorer ces bassins-là. Puis, parfois, je présente au client, regarde, ça, c'est ton discours. J'ai sorti de ton discours telle quantité de variables. Puis, lui, il dit, ah, mais à ces variables-là, il y a deux autres, 4, 5 variables associées. Ça. Mais je dirais que, dès le projet que j'ai travaillé, on tombe sur une vingtaine de variables pour les projets les moins complexes. Puis, pour les projets les plus complexes, on tombe facilement sur les milliers de variables.
Ça fait que tu vas modéliser un peu l'expertise de ton client.
Oui.
OK.
Oui, tout à fait. L'expertise de mon client, où j'ai pu la modéliser. Parce qu'en fait, quand je prends mon bassin variable, les clients vont me dire « Ah, mais moi, je ne mesure pas ces variables-là. Je n'ai pas de mesure sur cette dimension-là, sur cette variable-là. J'ai des mesures sur telle variable. » Donc, c'est là où on commence déjà à dire ton processus, ton discours est orienté vers ça, mais tes mesures sont orientées vers ça. Donc, c'est déjà un sous-ensemble dont le client doit comprendre qu'il y a déjà une setup pas optimale, en fait.
Si on revient à ton exemple, Hydric, nomme-moi quelques variables dont on tient compte habituellement, puis t'estimerais que les modèles que tu conceptualises, ils ont combien de variables?
OK. Ça dépend...
Une prévision hydrique, là. Disons qu'on regarde là, okay. Typiquement. Là,
on va aller avec une prévision hydrique. Une prévision hydrique, souvent, on prend la température.
Un.
On prend l'humidité relative.
Deux.
On prend... ça, c'est à différentes hauteurs sur l'atmosphère. Donc, souvent, c'est on peut faire 10 hauteurs différentes.
OK.
Parce donc que ça change.
10 variables d'humidité relative.
Ouais.
10, OK.
Oui, c'est ça, de température. Puis, on fait une fenêtre glissante. C'est-à-dire, si je veux prévoir la précipitation demain, disons journalière, c'est plus facile quand ils sont agrégés, là. Mais la prévision journalière de demain, c'est vendredi. Hein.
Oui.
Donc, c'est ça, je suis rendu à ne pas savoir quelle est la journée de la semaine. Là. Donc, on prend toutes ces variables-là avec un décalage, disons, une semaine.
OK, on
donc,
est rendu à 20.
Toutes ces variables-là, ouais. Qu'on avait 20, on l'a multiplié par 7.
On fait varier sur 7, 20 fois 7.
C'est ça.
OK, puis là, on se met à calculer. OK, on fait que ça okay. Fait des variables.
Oui, donc ben, la beauté des algorithmes d'apprentissage automatique, c'est qu'ils sont conçus pour être capables de faire l'ingestion de toutes ces variables-là, puis nous ressortir un peu quelles sont les variables qui ont une vraie influence, mais aussi de quelle façon. Puis ça, c'est la partie découverte des connaissances que, pour moi, c'est le cœur de chaque projet.
Tu n'es vraiment pas dans la simulation de l'intelligence humaine plus que dans la recherche alimentée par des données massives
ouais.
Ou quasi-massives, mettons.
Oui, c'est qu'en anglais, on parle de data-driven models.
Oui, ouais. C'est ça, OK. Ouais.
Donc, data-driven, c'est-à-dire on part d'abord des données existantes ouais. Qu'on n'inventera pas. On n'essaie ouais. Pas d'inventer un modèle qui se plaquerait sur l'intelligence humaine. On part des données et on essaie de faire parler.
C'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup, dans mon domaine, parler de machine d'apprentissage automatique.
Intéressant l'expression machine learning. En anglais, machine learning, ça, on dirait que ça met en évidence machine, donc
oui.
la machine en tant que telle. Puis apprentissage machine,
oui.
En français, ça met l'emphase sur la notion d'apprentissage
oui.
Qui est automatisée. Là. Donc, oui. On dirait que le sens...
Oui, je trouve que ça change, mais juste pour...
On dirait que c'est plus précis en français. Ce que ça fait vraiment, non?
Oui, oui. En fait, c'est juste que c'est plus fancy machine learning. Hein?
C'est ça.
C'est plus trendy.
Ouais. bon, OK. Là, on a ce projet-là, cet exemple-là de comment on utilise l'intelligence artificielle pour faire des prévisions hydriques. On fait de la modélisation. Les modèles existants, des fois, sont satisfaisants. Dans ton cas, c'est un modèle... Le modèle existant était plus ou moins satisfaisant en termes de performance, d'efficacité. Puis l'utilisation du machine learning permettra d'accroître l'efficacité du système, faire de meilleures prévisions hydriques, hydrologiques, c'est ça?
Mais dans ces modèles-là, tu peux ajouter beaucoup plus de complexité. En fait, un de mes projets, ça a été avec des données issues du radar. Donc, c'est des pixels d'information. Donc, c'est 140 variables, c'est sur un pixel.
OK, là, on mais prend des données, c'est vrai, si on prend des données
mais
radar.
Si tu as une grille, tu vas continuer à multiplier ces quantités de données, quantités de variables.
Là. Puis là, tu peux montrer à ton intelligence artificielle à interpréter ces données, comme un peu comme on fait, là, on regarde ouais. des données produites par un radar, ça nous permet d'anticiper, on regarde un peu, moi je regarde le mouvement des nuages, puis tout ça, mais tu peux apprendre aussi.
C'est une des variables aussi que j'avais oublié, c'est la direction du vent.
La direction du vent. C'est une autre belle variable ouais. Qui complexifie les choses. On a tendance à, dans le discours, à nous faire des peurs, je dirais, avec l'intelligence artificielle. Là, tout à coup, on est proche de la singularité, puis on va perdre le contrôle. Dans ton cas, ça semble assez concret, appliqué. C'est quoi les bénéfices que tu as vus à court, moyen terme d'une application de l'intelligence artificielle dans ton domaine?
Dans le domaine hydrométéorologique, je l'ai vu, heureusement, en fait, la vraie vie, ça nous a montré les derniers systèmes d'alerte des crues qu'on avait développés avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Lui, il a émis une alerte, c'était l'année passée, on l'avait développé à la fin, en janvier 2019, là.
Okay.
Puis à peu près en mai 2019, ce système d'alerte des crues dans ces régions montagneuses, là, a mis une alerte. Ils ont évacué la population de ces régions-là, puis il y a eu vraiment un effet tout de suite parce que après la crue, c'est 10 maisons qui étaient disparues.
Ah oui?
Donc, on l'a vu tout de suite comme en place, là, les avantages. Puis, en fait, ces modèles-là qu'on avait développés, un groupe de chercheurs a gagné des prix en Colombie par rapport à sa performance, sa façon d'implanter aussi, parce qu'en fait, ça a été une implantation, je pense, une implantation rapide.
OK. Okay.
C'est des modèles aussi, un des avantages de modèles en apprentissage automatique, c'est que, comme ils sont basés sur les données, on les capture, on implante tout de suite pour avoir une réponse tout de suite à la milliseconde, peut-être. Hein? Donc, ça nous donne déjà beaucoup d'avantages sur les modèles physiques, conceptuels, disons, populaires. Parce que ces modèles-là ont besoin quand même de quelqu'un qui va nourrir les modèles presque à la main.
Puis, ah oui?
Puis on peut les automatiser, mais c'est beaucoup plus lourd. Donc, puis c'est beaucoup plus lourd aussi à rouler.
OK. Tant
qu'ils sont basés sur la physique, ils doivent résoudre plusieurs équations qui ne sont pas faciles à résoudre. Hein.
Mais tu disais que le modèle développé a permis, déjà générer automatiquement une alerte.
Oui.
Puis que ça a permis de sauver, dans le fond ici, c'est ouais. Sauver des vies. Comment ça se fait la transition entre le système d'alerte qui est en place puis la décision politique? Comment, étant donné que, il me semble, en tout cas, l'intelligence artificielle fonctionne des fois là, avec une boîte noire, le calcul fait des prévisions plutôt. Comment le décideur, il prend sa décision? Est-ce qu'il se fie aveuglément sur l'alerte qu'il vient de recevoir d'une intelligence que...
C'est une très bonne question.
Ça donne une donnée ou...
Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est un autre défi. C'est comment sécuriser le monde que ton modèle va te donner assez d'informations pour que toi, tu prennes une décision. Parce c'est qu'en ça. Fait, on ne génère pas des outils automatiques. Moi, je suis aussi en contre ça. On génère des outils à l'aide à la décision. C'est ça que mes projets tous vont vers là. En fait, ça doit être toujours l'humain qui prend une décision puis qui doit prendre l'information que les modèles lui donnent pour dire oui, ça a l'allure, non, il y a quelque chose de bizarre ici. Puis aussi, on ne lui donne juste pas une sortie de « Écoute, demain, il va avoir un creux autant de mètres, autant de risques. » C'est ça, on va lui donner aussi comment une probabilité que cet événement-là
se produise.
Donc, c'est à lui de juger si avec ses probabilités, il peut prendre les risques. Donc, moi, je génère pour tous les projets un outil d'aide à la décision. C'est ça.
Donc, faire parler les données le plus possible, faire parler, donner, faire du sens avec les données, faire générer de l'information pour le décideur.
Oui.
Qui lui sera en même de recevoir cette information automatiquement générée pour prendre
des
décisions plus précises, plus efficaces.
Dans le contexte de ces projets-là, il y avait comme programmé quand même que si les modèles, parce qu'en fait, les modèles marchaient en temps réel. Donc, quand le seuil d'inondation était plus haut qu'en valeur définie, il envoyait directement un message au décideur. Parce qu'en fait, dans ce genre de processus, il y a plusieurs niveau décisionnel. Ça dépend aussi de l'ampleur de l'événement. Donc, on programmait, mais ça, c'est pas du machine de l'apprentissage automatique, mais c'est comment gérer les réponses de ton modèle d'apprentissage automatique.
Okay.
Parce que ça peut jouer un mauvais coup aussi quand toi, tu mets en place ce genre de modèle, puis tu le laisses automatique, puis il y a beaucoup de faux positifs. Donc, la communauté, à un moment donné, va dire, écoute, le système d'alerte toujours est en train de
donner des alertes.
Des alertes. Donc, on s'en fiche, disons, de ce système-là. Puis ça, c'est très négatif pour un système. Là.
Ouais, ça serait ça le danger. Là.
C'est comme si le système criait toujours au loup, en fait.
Ouais. Au loup, puis finalement, au moment qu'il y a le loup, on le croit plus.
Ouais, on le croit plus. Mais c'est pour ça, tantôt, on parlait d'aide à la décision. Une des choses qu'on... Moi, mon domaine, c'est plus la gestion des ressources humaines. Quelque chose qu'on voit dans l'analytique RH, par exemple, ou dans la gestion les ressources humaines propulsées par la donnée, c'est souvent que ces outils-là à la décision provoquent comme une délégation du jugement, c'est-à-dire que le décideur ou la décideuse qui reçoit le résultat de la machine a tendance à considérer que ce résultat-là, il est bon, que cette prévision-là est objective, puis il ne va pas oser critiquer ce résultat-là, si on veut. Fait qu'il va le prendre tel quel. Mais là, ce que j'entends, c'est que non seulement on fait bien de faire confiance aux résultats de la machine, mais en plus, ils sont pensés de façon à donner des outils aux décideurs ou à la décideuse pour être capable de prendre une décision éclairée quand le résultat se présente ou quand la prévision est donnée, puis que ça dépend aussi d'une bonne gouvernance de l'information.
Tout à fait, la gouvernance est clé. En fait, souvent, c'est un sujet laissé à côté, puis les équipes, c'est qu'on se focus juste sur la modélisation mathématique, le meilleur modèle, la meilleure performance, tout ça, mais ils laissent de côté comment tes résultats vont influencer les personnes ou les processus qui suivent. Mmh. Donc, cette gouvernance-là, de la mettre en place avec ton modèle, pour moi, c'est un incontournable.
Les deux doivent aller de pair, finalement.
Oui, c'est à la même valeur, même pour moi.
Je dirais que le principal danger, s'il y en a, ça serait que ces décisions-là soient complètement automatisées, là. C'est-à-dire que le décideur n'a plus d'exercice de son jugement, il se fierait bêtement sur les conclusions produites par ces outils-là. Là.
Mais ça dépend de chaque problème. Et dans les contextes prévisionnels, disons dans l'ère des crues, pense qu'il faut que ce soit toujours un outil de la décision. Si on part, disons, de fraude banquier, c'est la même chose. Un outil de décision, puis ça va permettre un comité d'experts. Mais si on part déjà d'un autre contexte, comme de la détection de personnes dans une photo, un appareil, je ne sais pas, ça, on le fait en temps réel sans besoin d'un comité d'experts. Chaque problème a ses particularités. Mais moi, si le problème est défini comme déjà qu'il y a une influence sur un aspect socio de la vie de quelqu'un, ça prend toujours un comité de décision.
À la place, à la toute fin, ça prend un humain pour prendre ce genre de décision-là. Puis d'où l'importance aussi de mieux peut-être former ceux et celles qui sont dans des positions de décideurs, de bien comprendre les nuances là, lorsqu'ils ont des résultats, de ne pas les interpréter bêtement, qu'il y a les outils intellectuels pour les comprendre.
Je trouve un danger là-dessus, puis j'ai vu passer des commentaires comme ça, parce qu'en fait, c'est comme l'intelligence artificielle, la solution à tout. Puis parfois, avec l'intention de vendre un produit rapidement, ils le vendent comme un outil sans erreur, puis ça, c'est pas vrai. Dans la nature des processus en intelligence artificielle, en fait, l'erreur, c'est le cœur de l'apprentissage.
C'est vrai. Donc, même avec les machines, c'est le cœur de l'apprentissage.
Même avec les machines, en fait, on apprend toujours de l'erreur, même les algos. Puis ça, il faut conscientiser les clients que l'erreur est toujours là. Peut-être c'est petite pour quelques problèmes, mais quand ton modèle a une incidence sur quelque chose en particulier pour la vie de quelqu'un, il faut pas laisser la machine toute seule décider.
Ça prend l'humain dans la boucle.
Ça prend l'humain, puis il faut pas dénaturer les processus qui à la base sont naturels.
Mm-hmm. C'est le human in the loop.
Ouais.
Human in the loop. Bon, mais c'est passionnant tout ça, Darwin. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que tu anticipes, toi, qui as les deux mains dedans, qui fait du service, de l'expertise, service conseil? Qu'est-ce qui nous attend en intelligence artificielle, machine learning, le genre de service que... À quoi ça ressemble maintenant? Est-ce que ça change, toi, depuis que tu en fais? Est-ce que ta fonction est en train de changer? Ton rapport avec le client est en train de changer?
Oui, je dirais que oui. Mon cœur est dans l'hydrologie, puis ma formation est en génie, puis j'ai continué à travailler toujours en hydrologie, mon doctorat. Ma maîtrise a été en prévision, précipitation, mon doctorat en prévision débit. C'était comme la deuxième phase.
C'est logique.
Donc, mon cœur est là, mais maintenant, je voyais comme une opportunité, en fait, parce que avec ces algos, on a les capacités de tous ces algos en apprentissage automatique sont assez transversales. En fait, quand il y a la donnée, quand il y a une sortie, quand il y a un apprentissage à faire, on peut l'implanter. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé un peu là-dessus aussi avec...
C'est quoi le nom de ta compagnie pour...
Apox.
Apox, on ne fera pas de publicité, mais en même temps, t'es là.
Je n'avais pas l'intention, mais non plus.
Mais c'est pour ça que je te le demande, parce que tu ne l'avais pas fait encore.
Là, non, bon. Ouais. Je suis un peu timide, hein?
Ouais.
Donc, non, mais je ne voulais pas qu'il soit comme vu comme ça.
Non, mais c'est transversal. Ce que tu disais, c'est qu'on a des outils. Peu importe la demande du client, s'il y a de la donnée, on peut la faire parler.
On peut la faire parler. Puis, je voyais qu'il y avait un gap énorme entre disons, la recherche, où on était rendu au niveau de la recherche en apprentissage automatique, puis l'industrie. C'était, les gaps étaient énormes. Donc, c'est là où je me suis dit à un moment donné, je vais m'en aller vers l'industrie. Parce qu'en fait, je respecte tout le monde qui fait la recherche en apprentissage automatique, parce qu'en fait, c'est le monde où on va s'appuyer plus tard pour faire plus de choses plus belles. Mais je considère qu'il y avait aussi un gap énorme qu'il a fallu faire quelque chose là-dedans.
Okay.
C'est là où j'ai décidé de partir ma compagnie puis dire ça va avoir deux effets. Le premier, moi, je suis à la base quelqu'un qui s'intéresse pour plein d'affaires.
Oui.
Donc, ça va me permettre comme de vraiment combler disons de ces besoins-là.
Oui.
Disons, maintenant, j'ai plusieurs projets, puis j'ai des projets vraiment divers.
Dans
tous les projets
genre,
sont
quel
différents.
Quel genre de domaine? On n'est plus dans l'hydrologie, on s'en va dans quel domaine?
Je ne suis pas en hydrologie.
Tu peux en parler? Sans donner d'exemple, mais
ouais,
ça peut aller vers quel domaine?
C'est ça, j'essaie à chercher mes mots parce que je ne veux pas vraiment... J'ai descendu de confidentialité, en fait, mais un des problèmes, c'est une fraude assurance.
Fraude assurance.
Oui. L'autre problème, c'est comment automatiser des demandes des clients. Je veux pas en parler plus. Là.
OK.
Des clients de quoi?
Des clients de quoi? On le saura pas.
Oui. Donc, l'autre projet qu'on a, c'est pour les accès inappropriés au dossier de... Je cherche mes mots pour pas vraiment aller.
Mais disons que ça chemine. Puis tes clients, ça peut être... On est bien loin de l'hydrologie,
oh,
des prévisions hydriques.
Loin, puis... Puis parfois, je réfléchis sur ça. En fait, je vais commencer, je me suis dit, bientôt, je vais commencer à chercher encore une fois des clients en hydrologie parce que je ne veux pas m'éloigner. puis il y avait comme une conférence fétiche que j'avais toujours en Europe, à Vienne, que j'allais presque à chaque année présenter des choses, mais comme je n'ai pas continué à développer des choses, il y a déjà 300 que je ne veux pas. Donc, puis je m'ennuie, là.
Ben, c'est intéressant. Puis le lien entre ces différents projets-là, c'est une abondance de données, des données
oui.
qui ne parlent pas suffisamment,
oui.
des résultats qui sont insatisfaisants, puis l'utilisation du machine learning pour faire parler les données, améliorer les modèles. Ça ressemble
oui.
à ça.
Oui, c'est ça. C'est tout sur le commun dénominateur. C'est la donnée est disponible. Puis il y a une expertise disponible aussi. C'est pas juste la donnée, parce que ça, c'est une autre chose. En apprentissage automatique, il faut penser que chaque projet, c'est la conjonction de l'expertise humaine puis des algos qui vont essayer à faire la découverte des choses. Mais quand les clients ont juste des données, mais il n'y a pas un problème clairement défini, puis il n'y a pas une expertise, et les probabilités d'échec sont énormes. Puis moi, d'habitude, j'embarque pas dans ce genre de problèmes.
T'aimes pas l'échec, là?
J'essaie de réduire les taux d'échec. Ça part mal de ma compagnie.
Et moi, ça, je trouve ça, justement, fascinant, l'idée qu'on part d'une... Je vais prendre ces mots-là, mais comme d'une modélisation un peu de ce que l'expert connaît.
Oui.
Puis qu'on va essayer d'augmenter ces capacités-là à travers une solution d'apprentissage automatique, par exemple. Ça, y a-t-il une limite à ça? Est-ce que c'est réservé à des problèmes comme ceux que tu as soulignés, ou est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, à un critique d'art, ou je pose des questions, là, j'explore là, complètement, mais dans quelque chose qui est plus intuitif comme domaine, justement. Là.
OK. En fait, je pense que les limites sont quand même floues, parce que tant qu'il y a la donnée, puis l'expertise est là, on peut jouer avec. Quand j'ai parlé de taux d'échec, c'est aussi un composant clé. C'est souvent les clients, quand ils embarquent, ils veulent vraiment quelque chose qui marche.
Évidemment.
Donc, mais l'échec pour ce genre de projet, on doit toujours le souligner. On doit toujours souligner que ce n'est pas la magie de l'intelligence artificielle. En fait, le monde, une des premières choses que j'ai fait avec les clients ou les prospects, c'est de les conscientiser. Ce n'est pas la magie qu'on va faire parler des données, mais si les données sont muées, tu peux rien faire, là.
C'est sûr.
C'est-à-dire, si les données, ça ne correspond pas à ton problème, on ne peut rien faire là-dessus. Donc, il y a les côtés éthiques aussi. En fait, j'ai embarqué avec des projets où j'avais les données, au départ, puis je lui dis à client, écoute, je veux pas embarquer dans ces projets-là parce que je vois pas qu'il y a un vrai potentiel là-dedans. C'est mieux que je te suggère de prendre tel genre de mesures, de tel genre de variables, puis après, on embarquera là-dessus. Mais dans l'explosion de l'IA, je dirais que le côté éthique de, aussi des consultants est un sujet critique.
C'est vrai.
C'est un sujet critique tant que c'est répandu partout que l'intelligence artificielle peut tout faire. Mm-hmm. Puis moi, je considère que là, il y a un danger. Puis il y a un danger pour notre profession aussi. Parce
c'est
que
vrai.
Ça part mal de nous, à un moment donné, ça peut commencer à parler mal. En fait, j'imagine que dans peu d'années, il devrait avoir comme un serment d'Hippocrate, mais pour l'intelligence artificielle.
Pour ceux qui travaillent en disant « Nous vous promettons ne jamais nuire, puis faire une vraie promesse, ouais. Le vrai serment, pourquoi pas? »
Pas que ça devienne des charlatans qui vendent de l'huile de serpent numérique. Là.
Mais oui. Mais oui.
Ça
mais
pourrait
oui.
ressembler à ça éventuellement. Il y a tellement un buzz, j'imagine que tu n'es pas le seul à offrir ce genre d'expertise-là. Puis j'imagine qu'on doit en croiser, qui ne maîtrisent pas nécessairement les outils de la bonne façon, j'imagine?
Il y a, c'est comme dans n'importe quel domaine, hein. Il y a de tout genre de vendeurs, puis c'est vrai que l'intelligence, l'apprentissage automatique, ça nous laisse une panoplie de modèles qu'on peut faire plein de choses, mais dans les pires des contextes, on va juste dire au client, ben écoute, toutes tes données que tu avais, je les ai regroupées, tel genre de données ont tel genre de comportement, puis peut-être pour les clients, c'est assez. Puis le client va dire, ah bon, on a trouvé quelque chose avec l'apprentissage automatique, là. Puis, mais c'est bien gérer les attentes. En fait, c'est ça, c'est bien gérer les attentes du client, puis de le faire voir à quel point il y a un vrai potentiel dans son information, là. Souvent, mes projets, je pars avec ça, un audit numérique. Donc, je vais aller voir les données qui sont déjà en place, puis ça semble à quoi,
s'il y a qu'est-ce qu'on pourra en faire.
Qu'est-ce qu'on pourra en faire. Puis après ça, je vais lui dire à client, OK, on peut faire tel genre de projet avec l'information que vous avez.
C'est intéressant de voir les attentes. Tu as passé du monde de la recherche au monde du client, là. C'est-à-dire ouais. que le client, il veut que ça marche.
Oui.
Il ne veut pas nécessairement comprendre.
Ouais.
Il veut que ça marche. Puis de l'autre côté, t'as l'universitaire qui, lui, ça marche, mais c'est pas si intéressant ça. Nous, on veut comprendre pourquoi que ça
ouais.
marche.
Oui, oui. Fait
que c'est deux mondes qui se marient mal, mais dans ton cas, ils se sont mariés. Là, ça a réussi à trouver, à faire du sens,
écoute,
les deux.
Le domaine où j'étais à la maîtrise et au doctorat, c'est un domaine très physique. L'hydrologie, les prévisions de précipitation, tout ça, c'est des modèles physiques à la base. Donc, juste pour moi, en fait, mon directeur recherche était François Antil.
Oui, François Antil. Ouais.
Lui, il publiait des réseaux neurones aux années 90, là, je pense 89 même. Là.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Mais lui, il était comme contre-courant. Parce que, en fait, c'est un mode physique où tu arrives avec des outils mathématiques un peu perçus comme black box, parce que tu peux pas en sortir la connaissance là. Tu as une bonne performance, mais tu sais pas comment interpréter pourquoi la performance.
Mais ça, cette black box-là, la boîte noire, pour la recherche, c'est pas intéressant. On veut comprendre ce qu'il y a dans la boîte noire.
Oui,
c'est ça. On veut pas juste dire, il y a une boîte noire, puis à la fin, ça fonctionne.
Mais même dans les entreprises, c'est pareil aussi, là. C'est pareil parce qu'en fait, dans l'industrie, souvent, le monde, disons, les fraudes bancaires, ils vont dire, mais oui, je détecte les fraudeurs, mais pourquoi ils sont fraudeurs?
OK.
Quelles sont les variables qui m'ont amené à ce genre de questionnement-là?
OK.
Donc, c'est pas... En fait, il y a... Disons, si c'est la reconnaissance test, si c'est la reconnaissance d'image, tu as moins l'idée d'avoir une vraie explication de pourquoi l'algo reconnaît ce genre d'image-là.
C'est
fini, là.
Ouais.
Mais si tu es dans un autre contexte, c'est peut-être même crucial pour après faire une soutenance de ta décision.
Surtout, c'est ça. Surtout, c'est une prise de décision...
Ouais.
Tu veux savoir, tu es arrivé à telle conclusion, tu me donnes tel chiffre, mais comment tu es arrivé à tel chiffre?
Ouais.
Parce que moi, ça m'aidera pour prendre ma décision.
Fait. Oui, puis pour des questions d'imputabilité aussi, c'est
ça,
transparence et d'imputabilité.
À la fin, si tu prends une mauvaise décision, il y a quelqu'un qui va venir à rebours, puis sur quoi tu t'appuies? Mm-hmm. Ben moi, j'ai reçu un résultat, ça disait allons-y, puis j'ai dit oui, en matière d'imputabilité, ça... Ça ne tiendra pas. On doit avoir d'autres arguments. C'est pour ça que de faire parler tes données, ça devient intéressant pour le décideur. S'il y a de l'information, il est capable de dire « je me suis appuyé sur telle, telle, telle donnée qui m'ont donné telle information en matière probabilité, pourcentage, puis on a décidé de prendre ce genre de décision-là, ça fait plus de sens.
En fait, c'est la deuxième étape souvent pour les projets. C'est la première, c'est l'audit numérique des bases de données, s'il y a des quoi. Mais la deuxième, c'est est-ce que vous voulez un modèle interprétable ou pas?
OK.
C'est la deuxième tout de suite. Puis les clients, souvent, ils disent c'est quoi
que ça veut dire?
C'est quoi un modèle non interprétable? Parce qu'ils pensent que toutes les choses sont interprétables.
Pas avec l'intelligence artificielle.
Ouais. Donc, puis souvent, ces questions-là, il doit la poser aux avocats, il doit la poser ailleurs pour voir comment ça marche après la décision, quelles sont les conséquences de la décision de notre modèle du point de vue légal. Donc, après ça, revient la réponse.
Passionnant tout ça. Qu'est-ce qui nous attend dans 10 ans? Ça va ressembler à quoi?
Oh my God, je ne suis pas Nostradamus.
On est-tu capable de se projeter?
mais je vois l'explosion. L'explosion, en fait, on la voit déjà.
Parce qu'on est dans la dernière fois avec notre dernier invité, Philippe Després. Lui, il voyait là, qu'on était dans le haut de la montagne. On se préparait à une... On avait atteint un taux de saturation important, là, puis on s'en irait progressivement vers un nouvel hiver. Là. On en a eu plusieurs. Là.
Okay.
Là, tu le sens où, là?
Ouais.
Croissance, stagnation, décroissance.
Je pense que je me suis posé cette question aussi parce que j'ai une entreprise là-dessus. Là. C'est une question que j'aimais poser.
Croissance,
souvent.
Ça serait important pour toi.
Ouais, c'est... Mais je dirais que les marchés quand même vierges maintenant. C'est-à-dire, il faudra se poser la question en recherche puis en industrie.
OK. En recherche, stagnation.
En recherche, peut-être, on atteint les limites de stagnation où il faut même commencer à interpréter les choses qui ne sont pas interprétables. Je pense que ça, c'est l'avenir des 10 prochaines années. Dire, on va faire une intelligence artificielle interprétable. Parce que les modèles qui sont le plus performants aujourd'hui sont, en fait, dans plusieurs cas, ne sont pas interprétables.
Donc, faire sortir de la connaissance.
Il y a déjà un domaine qui s'implique, c'est assez nouveau. C'est de faire les modèles non interprétables, les faire devenir interprétables.
Interprétables.
Donc, je pense que au niveau de la recherche, je vois que c'est là où ça va focusser.
OK.
Au niveau de l'industrie, comme il y a un gap assez. Je ne sais pas, un gap en français, il y a un trou.
Écart.
Il y a un trou.
Un écart. Un écart, voilà. Une distance.
OK. Il y a une distance assez considérable. Je pense qu'on n'est pas dans ce niveau de stagnation, en fait. On est plutôt dans le niveau de transfert de connaissances déjà, qui est déjà en recherche, qui est déjà...
Donc, une belle période de croissance. Alors, on va te souhaiter ça. Écoute, Darwin, je vois que je t'ai posé dans 10 ans. On voit que tu anticipes une belle croissance. Donc, on va te souhaiter...
Il faut être positif, hein?
Ben oui. On va te souhaiter que Nostradamus ait eu raison aujourd'hui dans 10 ans, une belle croissance. Alors voilà, c'est tout. Ça fait quand même plusieurs minutes là, qu'on discute. Il faut s'arrêter. Merci d'être passé avec nous dans les studios d'IA Café Darwin.
Merci
Brochero.
Vous.
Merci Fred.
Merci. Merci.
On était là aujourd'hui.
Merci Darwin.
C'était le fun. Alors voilà, on se revoit au prochain épisode. D'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Bye bye.
Parfait, merci. Ben.
Salut. Bye.